Bonjour Edith Raymond et Pierre Christin. On va présenter et discuter d'un livre que je montre à la caméra et qui s'appelle Journalisme, l'école de Bordeaux. On reviendra sur la couverture. Il y a écrit Pierre Christin, entretien avec Edith Raymond et c'est publié au Bordelot. Alors, vous êtes tous les deux dans le studio parisien de la station Ozone. En fait, c'est un peu paradoxal, on va parler tous les trois d'une histoire bordelaise, donc celle de la création d'une école. Bon, je ne sais pas si le sujet est original et s'il aurait attiré le grand scénariste et formidable conteur d'histoire que vous êtes, Pierre Christin, pour en faire un album qui aurait été dessiné par un de vos compères, Jean-Claude Mézières, hélas disparu le 23 janvier, ou Enki Bilal, qui a d'ailleurs très gentiment offert un dessin pour la couverture. Toujours est-il que le livre publié aux éditions Le Bordelot est d'un genre éditorial inhabituel, non pas parce qu'il s'agit d'un livre d'entretien, mais parce que l'intervieweuse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, donc Edith Raymond, a été votre élève et qu'elle vous a succédé en 1986 à la direction de l'école que vous avez créée et qui a ouvert ses portes à la rentrée 67, qu'on appelle communément l'IUT de journalisme. Alors, on pourrait presque dire que ce livre est une forme de mise en abîme, puisque vous répondez aux questions d'Edith Raymond, Pierre Christin, mais elle-même, ayant été actrice, ces questions, j'allais dire, sont enrichies aussi de son expérience. Et puis, fort opportunément, il y a une postface qui est signée du directeur actuel de ce qui est devenu l'ISJBA, on y reviendra, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, Arnaud Schwartz, qui, d'une certaine façon, prolonge votre témoignage et votre recension. Alors, ma première question, elle porte sur le titre. L'école de Bordeaux, on parle communément en peinture de l'école de Paris, de celle de Pont-Aven, de l'école italienne ou de l'école en histoire de l'école des Annales. Est-ce qu'il y aurait une école de Bordeaux du journalisme? Et si oui, quelles en seraient les particularités et les lignes de force?
Ben, je crois que c'est pas tout à fait un hasard si le livre s'appelle comme ça, parce que, par exemple, pour prendre un premier critère, une école, c'est tout à fait différent d'une université. Une école, dès le départ, il y a un esprit de groupe, il y a un esprit de famille, qui n'a fait, d'ailleurs, dans le cas de Bordeaux, que perdurer, puisque Arnaud Schwartz a été notre élève à tous les deux, et que ce qui est réconfortant, je pense, pour nous, mais je l'espère aussi pour les élèves actuels, c'est ce sentiment qu'il y a une espèce de permanence dans les buts qui sont poursuivis par cette école. Ensuite, je pense que c'est pas un hasard si beaucoup des écoles que vous avez citées sont des écoles d'art. Parce que quand j'ai démarré pour fabriquer cette école, c'était table rase, il n'y avait aucun modèle, il n'y avait pas d'école universitaire de journalisme en France. Ma seule petite expérience, c'était ce que j'avais vu sur les campus américains, et qui d'ailleurs m'avait amené à dire « Comment se fait-il que l'université française ne soit pas fichue d'enseigner le journalisme ?» Puisque c'était quand même déjà le moment, dans les années 60, où on se demandait ce qu'allait bien de diable devenir des étudiants en lettres. Mais le fait que ça soit une école, tout de suite, m'a amené à réfléchir à des manières de faire pour enseigner qui n'étaient pas celles de l'université, mais celles de cette transmission à la main qu'il y a dans les écoles d'art et que moi-même, j'ai bien connu avec tous mes amis dessinateurs. C'est pas des discussions abstraites, que ce soit dans la bande dessinée, dans la peinture. C'est extrêmement concret. C'est comment tu fais là? Tu mets du mauve? Non, pas du mauve, ça va pas. Et là, tu vois, la tête du cheval, elle cogne contre la case. Non, ça va pas. Et c'est comme ça, je crois, dès le départ, que j'ai souhaité qu'on enseigne le journalisme à l'IUT, qui était quelque chose de nébuleux, mais où il y ait une grande proximité entre les enseignants et les étudiants pour faire des objets, exactement comme on fait un tableau, comme on écrit un texte, et non pas comme on fait à l'université où on donne éventuellement une dissertation de temps en temps qui finit plus ou moins rapidement paraît corrigé.
Oui, moi j'ajouterais aussi que c'est une école parce que c'est lié aussi à la très forte personnalité de ces deux fondateurs dont on parle dans le livre, ouais. qui sont Pierre Christin, bien sûr, qui a été le premier et le responsable de la filière, et Robert Escarpite, qui a eu l'idée de foncer sur ce dispositif d'IUT qui était en création pour des métiers du secondaire, hein, et qui a eu cette idée absolument novatrice et original de dire créons une école universitaire de premier cycle dans le cadre d'un IUT, alors que je rectifie un tout petit peu, il y avait quand même une école universitaire quand l'IUT a été créée, qui était Strasbourg, mais qui était un deuxième cycle inscrit dans un dispositif classique universitaire, alors que là deux personnalités avec de fortes convictions politiques et une volonté vraiment importante de démocratisation de l'université avec des recrutements très différent des autres écoles de journalisme existantes, puisque il y avait aussi deux écoles privées, et une volonté de aussi très vite de renouvellement de la population des journalistes, de renouvellement de ces recrutements, ont enraciné à Bordeaux un certain nombre de valeurs au sein de cette école qui perdure encore, on le voit bien dans la postface d'Arnaud.
Alors. Le décor est planté. On va revenir sur le terme que vous n'avez pas employé, Pierre, mais qui est véritablement une déclinaison de l'art. C'est le métier d'artisan. Hein. Artisan, on peut dire, au sens, comme vous l'avez dit, du fabricant. Il y a un premier chapitre qui est intitulé « Une embauche à l'arrache pour un projet moderne ». Alors, vous racontez, Pierre, votre arrivée à Bordeaux en 67, 5 ou 6 heures après être parti de Paris. Alors, je rassure celles et ceux qui nous écoutent, on n'était plus pourtant au temps de la diligence et des calèches, hein, mais on était au temps d'un train qui s'appelait peut-être déjà le drapeau. Et comme vous dites, des potrons minés. Alors, ça veut dire, pour ceux qui n'auraient pas lu hein, ou qui ne connaîtraient pas l'expression, vous êtes arrivé finalement très tôt dans Bordeaux. Et vous dites à Edith, j'arrive à la faculté des lettres, c'est un vieux beau bâtiment un peu décati, parce que c'était aussi, dites-vous, le début de fissures variées dans le monde universitaire. Et vous ajoutez, je rentre là-dedans, c'est tout noir. Et puis, avant ce passage, à propos de Bordeaux, vous écrivez, à l'arrivée à la gare Saint-Jean, je marche dans la ville et renifle l'atmosphère dont le côté vieillot et un peu à l'abandon, me saisit immédiatement. Voilà. Alors, on sait que vous avez déjà pas mal bourlingué. Je recommande pour celles et ceux qui veulent un petit peu plus connaître Pierre Christin, qui s'est livré un album en bande dessinée que je trouve extraordinaire, qui s'appelle « Choses vues par Pierre Christin », c'est chez Air Libre, et c'est dessiné par Philippe Aymon. C'est vraiment remarquable parce que ça montre votre histoire un peu personnelle, au moins au début. Et vous êtes passé par l'université d'Utah à Salt Lake City, la ville de la communauté mormone. Alors à Bordeaux, il n'y a pas de mormons, du moins en mon sens, pas encore vraiment. Mais il y a d'autres chapelles et il y a d'autres églises, dont une à l'université, on va le découvrir dans le livre, s'appelle le Parti communiste français. Et vous allez rencontrer, sinon le pape du Parti communiste français, un de ses cardinaux et un de ses archevêques, encore qu'on a souvent dit qu'il était compagnon de route, forcément, sans être véritablement encarté, bon, Robert Escarpite. Et à l'époque, en tant que Parisien et lecteur quotidien du journal Le Monde, vous connaissez de Robert Escarpite son célèbre billet « Au jour le jour » qu'il écrit depuis 49. Hein, il va être le rubricard de « Au jour le jour » 30 ans. Qui est Robert Escarpite en 67 et comment se passe votre premier contact ?
Ben, je finis par rentrer dans ce bâtiment assez désertique et on m'emmène dans des couloirs labyrinthiques jusqu'à une porte de bureau qui n'avait rien de prestigieux et où Robert Escarpite à l'époque était professeur de littérature comparée, puisque par ailleurs, c'était un polyglotte éclairé. Mais on sentait qu'il n'occupait pas vraiment une position de pouvoir à l'intérieur de l'université. Il était incontournable. C'était le prof le plus célèbre de Bordeaux. Mais enfin, étant alors crypto-communiste, néo-compagnon de route, appelons-le comme on veut, il était quand même un peu sulfureux pour toute une partie de la communauté universitaire de Bordeaux. Parce qu'il faut dire que l'époque où s'est créé l'IUT, c'était pré-68, et grosso modo, l'université, comme beaucoup d'autres endroits en France, était séparée en deux, de façon très violente, entre d'un côté la droite bourgeoise, les grands professeurs, presque tous d'ailleurs d'origine bordelaise. J'étais stupéfait de découvrir que tous les grands noms de l'université étaient des Bordelais de chez Bordeaux, et la piétaille qui fondamentalement, les maîtres de conf, conférences, comme on dit, étaient généralement au SNESUP et très souvent au Parti communiste. Ce qui fait qu'il y avait un climat qui, avant 68, restait feutré. Mais enfin, qui faisait qu'il y avait des visions très divergentes de ce que pouvait devenir l'université. Mais 68, évidemment, n'a fait que percer l'abcès et entraîner des conflits qui ont perduré, d'ailleurs, on peut le dire, jusqu'à aujourd'hui, sous des formes variées et diverses. Donc, Escarpite m'accueille, mais en communiste dissident, ça ne le gêne pas. D'ailleurs que moi-même, je ne suis pas communiste, mais que je n'ai pas l'agrégation, ce qui à l'époque est un péché majeur à l'université, et encore moins de doctorat, puisqu'il commence à me poser des questions. Alors, j'ai du respect pour lui comme journaliste, et même une certaine admiration, parce qu'il est le premier homme à avoir parlé de certains écrivains, comme San Antonio. Il connaît très bien la littérature pelussière, il connaît très bien la littérature d'humour, il connaît la littérature de science-fiction. C'est-à-dire que moi, je suis encore un très jeune homme, hein, j'ai 26 ans, ce que je pratique, justement. Et où je me dis, bon, je vais lui en parler ou pas lui en parler. Arrive, évidemment, de la part d'Escarpite, la question fatidique, êtes-vous agrégé? Et là, je fais, non, évidemment. Pensez-vous faire un doctorat? Bon, là, on pouvait y aller. Oui, monsieur, bien sûr, évidemment.
Pardon, Pierre. Vous dites même que vous avez une thèse engagée avec un des hommes les plus délicieux, d'ailleurs, de l'enseignement supérieur, Jean Touchard, qui était un type remarquable, mort à 52 ans, bien trop jeune, et qui était secrétaire général de la Fondation nationale des sciences politiques. Et vous lui dites, à Escarpite, j'ai une thèse engagée avec Jean Touchard sur cinéma et politique. Ben, ça, c'était quand même drôlement bien vu.
Oui, tout ça, ça s'en manchait pas si mal, en réalité. Et Touchard a été mon premier mentor. Il m'a même sorti de là où j'étais, d'où je venais. À l'époque, à Sciences Po, j'étais un gars d'origine très modeste. J'étais une personne déplacée à Sciences Po. Il m'a repéré parce que j'étais moi-même un cinéphile acharné comme lui et qu'on se retrouvait toujours tous les deux sur les bancs des petits cinémas du Quartier Latin. Et Touchard me disait, qu'est-ce que vous faites là, Christian? Vous n'êtes pas en cours? Non, monsieur, j'ai rencontré une jeune femme, elle prend des notes pour moi. Bon, elle me les donne le lendemain, c'est très bien. Et Touchard me disant, bon, quand vous aurez fini vos études à Sciences Po, venez me voir. Et c'est comme ça que j'ai alors amorcé cette thèse qui ne s'est jamais fait avec lui, puisque j'avais trouvé mon nouveau maître et patron avec Escarpite, et que j'ai fait plus tard ma thèse avec Robert Escarpite sur une autre de nos passions communes, qui était le fait divers. Alors ça aussi, ça prouve que c'était une personnalité pas tout à fait comme les autres, puisque je vous le rappelle, le fait divers, dans le logos communiste, c'était le mal. Dans la presse communiste, il n'y avait pas de fait divers, puisque dans les pays communistes, c'était un monde parfait, donc il pouvait y avoir des choses qui ne fonctionnaient pas bien, mais on n'en parlait pas. Et en France, la presse communiste était hostile aux journaux de faits divers. Mais lui, bien entendu, ça ne gênait pas du tout, puisque on était d'accord pour dire que le fait divers était un révélateur de la société. Voilà comment s'est engagée une discussion de recrutement qui avait des côtés d'entretien mondain et amical entre un homme prestigieux, très ouvert, très vif, et un petit jeune homme qui savait pas trop ce qu'il faisait là. J'étais en train de chercher un job, voilà. Mais où je dois dire d'emblée que j'ai été séduit par lui. Et séduit d'ailleurs aussi, il faut le dire, par cette grisaille de Bordeaux qu'on appelait la Belle Endormie et qui était même quasiment dans un état comateux.
Mais justement, on peut dire que votre histoire, qui se concrétise en quelque sorte dans la création de cette école de journalisme, c'est aussi, vous venez de le dire, la rencontre avec des personnes. Hein. Il y en a d'autres après qui vont compter. Et bien sûr, il y aura aussi la rencontre avec Edith Raymond qui va intégrer l'équipe à peu près 6 ans après la création de l'école. Mais c'est aussi la rencontre avec la ville. Alors je me suis demandé ce qui vous a séduit dans Bordeaux. Le port, alors ça serait votre côté Pierre Macorlan un peu, hein. La bourgeoisie, ça serait votre côté Balzac dans la peinture psychologique et sociale des Nantilles. Les secrets enfouis que tout, même si vous dites que vous n'étiez pas journaliste, mais que tout écrivain et conteur imagine, ça serait votre côté Mauriac. Et puis les universitaires dont vous allez découvrir le tout petit monde, puisque vous parlez de Lodge que vous faites lire à vos élèves plus tard. Finalement, le Bordeaux que découvre Pierre Christin, c'est un peu tout ça, quoi. C'est une société originale. Vous connaissez pas la ville, hein, du tout.
Pas du tout. C'est la première fois que je venais et je sors de cet entretien d'embauche dont je ne savais pas encore exactement ce qu'il allait donner, avec Robert Escarpit, et je fais ce que j'ai fait toute ma vie, avant, pendant et après, marcher. Et je me mets à marcher dans la ville, j'avais encore tout le reste de la journée, l'entretien était le matin, et j'arrive, et c'est vraiment l'image fondamentale de mon rapport à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, mais pas les beaux Chartrons, les Chartrons sur le bord des quais, là où il y avait encore... les tonneliers, le matériel viticole, et je rentre dans la rue Bory, par hasard, et au bout de la rue, je vois quelque chose, quelqu'un comme moi, totalement anormal, non pas un immeuble, non pas un square, je vois un bateau.
Un bateau,
ouais. On avait l'impression qu'il était amarré au bout de la rue, enfin, il était de l'autre côté des quais, mais... Et ça, c'était un coup de foudre, parce que vous avez cité des textes, mais il y en a un que j'avais bien en tête à l'époque, d'un de mes écrivains favoris, était Blaise Cendrars, et où il décrit, revenant d'Amérique latine, son entrée avec la descente de la Gironde pour arriver à Bordeaux dans Bourlinguer, un de mes livres cultes, puisque je me suis donné moi-même, avec mes petits moyens, l'idée de bourlinguer, si possible, pendant toute ma vie. Ça a été vraiment un facteur déclenchant, au moins autant que l'entretien que je venais d'avoir avec le grand ponte de l'université, en disant « Ah, ça me plaît, cette ville, voilà, ça me plaît. »
Alors, il y a une trajectoire qui n'est pas identique, c'est celle d'Edith, même si toi, tu l'expliques dans ta préface, tu viens de Paris aussi, où tu as commencé, dis-tu, 2 années de médecine. Alors, tu dis plaisamment, en fait, bon, c'était pas du tout mon truc, je faisais ça sans doute pour... être mieux regardé par mon père qui était médecin. Hein. Qu'est-ce qui t'amène alors, on est bien d'accord, hein, l'école est créée, tu arrives en 71. Qu'est-ce qui te fait te choisir cette école de journalisme? Tu raconteras aussi peut-être les conditions de ton entretien de recrutement à l'école comme élève.
Alors, ce qui me fait choisir, je ne choisis pas l'école de journalisme, je choisis Bordeaux. Et je choisis tardivement, je décide de quitter Paris où je suis née, où j'ai grandi, voilà, qui est une ville que j'aime, mais je veux m'écarter de Paris. 68 a joué pour moi le rôle d'un détonateur. J'ai pris conscience de qui je suis et qui je veux devenir. J'avais une vision de la médecine et je m'étais engagée dans la médecine avec une vision très, très Pierre dit toujours que je suis une mère Teresa. J'avais une vision très humanitaire, très j'allais guérir, j'allais soigner les pauvres, j'allais partir en Afrique.
À l'époque, il y avait un médecin qui était très célèbre, alors tu aurais pu être madame Tom Doulet ou madame Edith Doulet. Hein, c'était ça.
Voilà, oui. Donc j'avais cette vision-là et j'entends parler de cette IUT de journalisme dans lequel, il faut le dire, on est en septembre, le recrutement est toujours ouvert et j'en ai marre des facs, des amphis bondés, de tout ça. Et je me dis, oh bah tiens, à Bordeaux, il y a ce truc. Après tout, journaliste, pourquoi pas? Parce que j'ai cette vision aussi du journaliste qui va déterrer des affaires, révéler, parler de la veuve et de l'orphelin, voilà, montrer la réalité de la misère sociale. Voilà, j'ai pris conscience en 68 d'un certain nombre d'enjeux politiques, et je me dis qu'au fond, dans le journalisme, je peux peut-être... Par ailleurs, j'aime écrire, enfin, comme beaucoup de gens, j'aborde le journalisme en me disant, oh, bah, après tout, j'aime écrire, pourquoi pas. Et je me présente persuadée que je n'ai absolument aucune chance d'être admise, puisque je ne connais rien au monde. À l'époque, je me souviens très bien que je lis les news magazines ou les Nouvelles Obs en essayant de comprendre quelle est la différence entre la CGT et la CFDT, parce que pour moi, c'est complètement opaque. Voilà, je suis encore acculturée politiquement. Et je me dis, bon, bah, j'ai vraiment aucune chance. Par ailleurs, ils vont me poser des questions de culture générale. Je suis ignare. Voilà. Et pas du tout. Je tombe sur deux hommes tout à fait bienveillants, un jeune et un plus âgé, qui ne me posent de questions que sur ma reconversion, parce qu'ils sont très, très étonnés de voir se présenter dans cette école naissante, quelqu'un qui a déjà deux années de fac, qui a eu son bac assez jeune, qui a fait des études scientifiques par ailleurs, même si j'étais une grande lectrice. Donc, ils sont très surpris, et je sens tout de suite que bon, il y a plutôt un a priori positif. Je découvrirai après, je n'ai jamais vraiment recherché, mais qu'au fond, tous les gens qui se présentent sont à peu près admis. Enfin, ils devaient écarter peu de monde. Et donc, me voilà admise et je me dis, ouf, pourquoi pas, je vais poser mes valises et je vais rentrer dans cette formation. Et très vite, je raconte dans la préface que je découvre des étudiants très différents les uns des autres, très exotiques pour moi, puisque moi, je suis parisienne, ils viennent tous de toutes les provinces de France, dans lesquelles, d'ailleurs, ils ne rêvent que de retourner travailler. Et il y a tout un tas de gens qui sont là parce qu'ils veulent devenir journalistes sportifs. Voilà. Et en tout cas, ils ont un enthousiasme fantastique pour ce métier qui est leur Graal, et que très vite, je vais partager. Et donc, je vais me mettre à y croire et à être subjuguée, je dois dire, par l'étrangeté de cette formation dans laquelle je sens bien que je vais mûrir, je vais grandir, je vais me constituer et me structurer.
Alors, Pierre a dit que cette école est alors, si on met à part le QEJ, parce qu'il va devenir le QEJ, et qui se structure sous cette appellation en 68, j'ai découvert d'ailleurs que à l'origine, le QEJ a été créé par un très grand criminologue, qui était d'ailleurs plus connu pour son travail de criminologue, qui était Léo T, et qui a lancé cette école de journalisme en 57, déjà. Voilà. Donc, il y a deux grandes écoles, tu l'as dit, édites privées, le CFJ, qu'on appelle communément, si je me souviens bien, l'école de la rue du Louvre, et puis l'ESJ, l'école supérieure de journalistes de Lille. Alors, le CFJ, en plus, a été, entre autres, porté sur les fonts baptismaux par une personnalité, Pierre dit que c'était des calibres, et des seigneurs, Philippe Vianney, alors, grand résistant, fondateur de l'école de voile des Glénans, enfin, on est dans une forme de mythe, là, Escarpite a cette idée de créer cette école au sein de l'université, mais les conditions de recrutement de la première promotion, Pierre, vous les racontez, c'est quand même assez rock'n'roll. On est en septembre 67, toujours Courpasteur, puisque le déménagement n'a pas eu lieu encore. Vous faites quasiment de la retape, enfin, pardon pour le terme qui est un peu cavalier, mais on peut dire comme ça, non?
C'est-à-dire que, comme toujours, à l'université, les décisions sont très longues à venir. Et la vraie réponse de mon entretien d'embauche, c'est Escarpite qui me la donne en me disant, eh ben, top là, on va faire affaire tous les deux. Mais, bien entendu, en réalité, l'établissement n'est pas encore créé et le poste encore moins. Je vous appelle aussitôt que c'est fait. Ça tombe pratiquement la semaine d'après, le poste est créé, vous arrivez. Je débarque et il me dit on a un petit problème avant même de commencer, qui est que il faut absolument qu'on ait une première promotion, qu'on puisse faire rentrer dans des locaux dont d'ailleurs on ne dispose pas non plus pour l'instant, mais on peut pas arriver comme ça le bec dans l'eau en disant on veut cette école et n'avoir personne à mettre dedans. Alors il dit on va aller si vous voulez bien dans la queue qui commençait à être comme ces queues qu'on a vu par la suite s'allonger de plus en plus démesurément pour les inscriptions. Et puis, on arrive donc au cours Pasteur avec des garçons et des filles qui poiretaient pour une heure, deux heures, trois heures. Puis on dit, bon, bah, comment on va choisir? On va leur proposer, leur dire qu'il y a une école de journalisme qui est créée, chose que personne ne savait, puisque ça venait de tomber. Puis tous les deux, on regarde, comment on pourrait faire quand même? Il n'y a pas de délit de faciès. Et on dit, mais il y a quand même ceux qui lisent le journal. Ça, c'est bon signe s'ils lisent le journal. Ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même à ce qui se passe. Donc c'est ceux qu'on a été voir dans la queue, en disant, bah, vous lisez le journal, ça vous plairait de venir dans une école de journalisme? Les gars qui nous regardaient, ou les filles d'ailleurs, qui nous regardaient avec des yeux ronds, ah bah, pourquoi il y en a une? Bah oui, presque. Et c'est qui? Bah, c'est nous. Et puis ça sera vous si vous venez. Et donc ça s'est fait comme ça. On a recruté à la sauvage pendant deux jours dans la queue une promotion totalement hétéroclite d'une vingtaine, 25, quelque chose comme ça, personnes pour pouvoir démarrer une première année. Et ce qui était très bien, c'est que dès le départ, il y a eu une espèce de mixité sociale qui s'est faite, non pas de façon scientifique, mais par cette méthode de choix qui était par définition aléatoire et qui a donné d'excellents résultats sur cette première promotion. On avait quand même des fils d'agriculteurs, quelques réchappés de la grande bourgeoisie bordelaise, disant, tiens, quand même, c'est peut-être mieux de faire journalisme que d'aller pourrir en fac de lettres. Il y avait aussi ceux qui avaient déjà fait un peu des études à la faculté de lettres, et il y a toujours eu un côté assez vindicatif chez les étudiants qui sont venus à l'IUT sur leur période fac. Égal, cours magistraux, jamais parler avec personne, n'avoir aucun retour sur ce qu'on fait, etc. Et donc, cette espèce d'attente en disant, dans une école de journalisme, quand même, on doit bien regarder ce que je vais dire, ce que je vais écrire, etc. Donc voilà comment ça s'est fait, avec une promotion bizarroïde et un début de cours tout aussi bizarroïde, puisque c'est moi qui ai fait le premier cours. Après, je suppose, une séance inaugurale d'escarpite. Et comme il n'y avait aucun endroit pour que je fasse mon premier cours sur la vie de la presse, le premier panorama de la presse que j'ai fait, ça s'est passé dans la salle des moulages antiques, en plâtre, où il y avait encore la Vénus de Milo, etc.
Non, mais ça, c'est extraordinaire, parce qu'on retrouve, d'ailleurs, c'est un télescopage. Hein. Alors, pour le coup, ce serait dans un scénar de BD, on dirait le gars, il a un peu tiré, là. Vous vous retrouvez avec des artisans qui ont fabriqué des objets, quoi.
Hein. Oui, oui, oui. Mais en même temps, dans ce monde, on peut dire, comble de la culture classique, admirer des statues, des copies, hein. Ouais, ouais. Ça fait aussi partie de la culture classique. Introduction d'un premier objet moderne, le téléscripteur, ouais. Qui était dans une petite salle attenante, et où on entendait le tic-tic-tic du téléscripteur tout en regardant la Vénus de Milo. Et ça, je me disais, ça c'est quand même formidable. Dans les facs, c'est un bruit moderne qui vient tout d'un coup se greffer sur un monde que je considérais, à tort ou à raison, mais enfin, comme très ancien et même comme très fatigué.
Dans cette première promotion, un tiers de filles, ce qui est très original, un tiers de femmes, ce qui est très original. Alors, on est en fac de lettres, il y a beaucoup de femmes en fac de lettres, mais pour préparer à la profession de journaliste, c'est étonnant parce que la profession est encore très, très masculine, notamment dans la presse quotidienne régionale, qui va constituer l'essentiel des premiers débouchés de l'école, où là, l'immense majorité des journalistes sont des hommes.
Alors très vite, on se rend compte que vous avez peut-être fait ce recrutement, comme vous dites, à l'arrache, mais il va y avoir une exigence pédagogique très forte que vous allez porter, Pierre, et ça donne lieu d'ailleurs à un accrochage avec Robert Escorpide, puisque vous dites finalement mai 68 vient percuter complètement cette école qui est naissante. Vous parliez d'étudiants qui étaient assez spontanément vindicatifs. Vous dites que la représentation qu'avaient les autres unités universitaires de l'IUT Journalisme, c'était, vous dites, vous employez même l'expression, c'était des étudiants étaient ceux qui foutaient la merde, hein, les étudiants de journalisme. Et puis, alors, la patatras, avec la première année, avec votre collègue Marie-Christine Icre, vous dites, nous avons recalé un tiers des étudiants en fin de première année, en plein mai 68. Et Robert Escarpit vous dit, ce sont des pratiques de classe, ça, Christin. Bon, on a bien compris que vous étiez un suppôt de la grande bourgeoisie. Hein, c'est quoi cette exigence-là que très tôt vous avez ?
Ben, je pense qu'on sent que l'IUT, au sein de la communauté universitaire, est méprisé. Les vrais profs, c'est-à-dire ceux des disciplines nobles, histoire, le français, philo, déjà le mot technologique leur donne des boutons. qu'est-ce que c'est que ça ? Ils vont apprendre à faire de la soudure. Il y a de ma part quelque chose qui serait dit en disant faut faire très attention et pas s'affaiblir en laissant penser qu'on est laxiste ou qu'on est au fond le prolongement d'un enseignement technique. C'est pas ça. On veut faire, ça m'amènera d'ailleurs à d'autres différends avec d'autres participants de ce milieu-là, à dire on fait pas des journalistes au rabais, on fait pas des petits journalistes, on fait des journalistes. Point. Et à se battre, notamment, non pas comme un suppôt de la bourgeoisie, mais certainement comme un suppôt de la méritocratie. C'est-à-dire, disant, dès le départ, c'est pas parce que c'est mai 68, il y a quelques étudiants qui sont pas au niveau, je les adore, ils sont gentils, ils travaillent, mais ils ont 18 ans, c'est des gamins, allez, un an de plus, mon vieux ou ma vieille, l'an prochain, tu seras prêt, on va faire ce qu'il faut pour ça. Parce que je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui plane, du genre, c'est un établissement, ouais, laxiste, quoi. C'est une espèce de garderie pour sous-étudiants, pas des vrais de vrais comme nous. Non, il fallait qu'il y ait cette espèce d'exigence. Et c'est ça la raison d'une mesure un peu rude, mais alors qui, pourtant, en mai 68, n'a absolument pas été contestée par, si j'ose dire, les victimes de la sélection.
Alors, tu n'as pas été victime, Edith, mais d'une certaine façon, ta première expérience, tu la racontes dans la préface, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu te prends des commentaires élogieux de ceux qui te corrigent, et puis il y en a un qui te met un B. Il s'appelle Pierre Christin, et son commentaire, c'est « j'attends beaucoup ». Je trouve que s'il devait y avoir une devise, ou s'il y avait dû y avoir peut-être un sous-titre ou sous-titre « L'école de Bordeaux », c'était peut-être « J'attends beaucoup ». Ça voulait dire quoi, finalement ? Tu l'as compris comment, toi ?
Je peux vous dire, j'ai beaucoup attendu, mais je n'ai pas été déçu.
Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, je suis un peu interloquée par les demandes de Pierre Christin. Pierre Christin, le premier travail écrit qu'il nous demande, c'est une nouvelle. Alors je me dis, mais comment ça, écrire une nouvelle ? On doit parler du réel, des faits, etc., etc. Quelle idée, quel intérêt ? Et je n'ai, mais absolument pas l'embryon d'une imagination. Puis j'ai surtout pas confiance en moi. Je pense que ça se sent à cette époque-là. J'ai aucune confiance dans ce que je suis capable de faire, d'inventer, de raconter. Je suis très impressionnée par Pierre, par le personnage, et même par l'atmosphère qui règne dans cette école, qui est tout à fait exotique pour moi, qui est tout à fait étonnante. Donc, il est probable que effectivement mes travaux n'étaient pas forcément excellents. Et je reste une bonne élève, parce que c'est ce que j'étais, hein, il ne faut pas le cacher, j'étais plutôt une bonne élève, studieuse, attentive. Donc les autres profs me mettent effectivement plutôt des appréciations élogieuses et des bonnes notes, hein, parce que quand il s'agit d'apprendre, de répéter, de raconter, de réciter, je suis parfaite. Hein. Mais quand il s'agit d'imaginer, d'inventer, de trouver un ton, un style, une narration. Ben là, je suis plus embarrassée. Donc, je comprends que dans les premiers travaux, il ne soit pas très content de ce que je fais. Mais j'ai surtout raconté ça pour raconter l'histoire de notre relation, parce que c'est vrai que c'est une relation un peu étrange et qu'au début, je n'étais pas forcément, quand j'étais toute jeune, je ne correspondais pas probablement aux attentes qu'avait Pierre en termes justement d'exigence de qualité. Je ne suis pas arrivée avec toutes les qualités pour exercer la profession. Et bon, elles sont venues peut-être après. J'ai essayé en tout cas de les cultiver, de les étoffer. Mais je suis encore jeune. Je suis politiquement pas très bien située. Que je l'ai, je l'ai expliqué. Je suis un peu inculte. Je ne sais pas trop où j'habite, quoi, on dirait maintenant. Je vais me structurer pendant ces années-là. Je ne suis pas non plus sa candidate quand je suis embauchée, ça je le raconte aussi, puisqu'au fond, je suis. On me demande, un autre prof, Maurice Rabot, pour ne pas le nommer, me demande de poser ma candidature à un poste de maître auxiliaire sur poste de PTA, puisque je poursuis mes études à Sciences Po, donc après l'IUT, à Sciences Po Bordeaux, et je cherche à gagner ma vie, parce que je pige pour combat, mais ça me rapporte quand même pas assez pour vivre. Je cherche à gagner ma vie, je vais à l'IUT pour savoir s'ils n'ont pas des piges ou des travaux que je pourrais assumer pour avoir un peu d'argent, puisque je suis en rupture familiale et que j'ai besoin de subvenir à mes besoins. Là, on me dit, posez donc votre candidature. Il y a un poste de maître auxiliaire sur poste de PTA, de petite main, quoi. Mm-hmm. Et j'apprends, quand finalement je suis recrutée, et j'apprends que j'ai été recrutée pour écarter le candidat de Pierre Christin, ce que je ne savais pas du tout. Et pour autant, et ça, je lui en suis très reconnaissante, il m'accueille à bras ouverts, hein. Vraiment en me disant très bien, t'es là, on y va, on bosse, on s'y met. Et je raconte aussi que voilà, je remonte un bureau déglingué avec Jean Charon de la CAV et je m'installe pour travailler, pour notamment commencer à rechercher des stages, puisque c'est la première mission qu'il me donne, et puis faire tous les petits travaux qu'il y a à faire, les suivis de production, les diffusion des journaux qui sont et tout de suite je suis extrêmement séduite par quelque chose dont on n'a pas encore parlé mais qui est vraiment très important, qui est l'incroyable bonheur que les étudiants ont à être dans cette école. Et moi, c'est ce qui m'y a retenu, des étudiants qui étaient pour leur immense majorité très heureux d'être là. Et on n'avait pas tellement de mal à avoir de l'exigence pédagogique avec eux, parce qu'ils avaient envie de bosser. La présence était obligatoire, mais on n'avait pas forcément besoin de faire l'appel à tous les cours. Ils étaient là, vraiment là, surtout dans les cours de production, dans tous les cours où on réalisait, où on faisait de la radio, de la télé, de la presse écrite, enfin des journaux. Et ils étaient extrêmement impliqués. Et il n'était pas question qu'il y en ait un qui parte avant qu'on ait bouclé. Ils adoraient ça. Ils adoraient l'école, ils adoraient être là. Et ça a beaucoup participé de mon envie de m'impliquer davantage dans cette école et finalement d'y construire une vie professionnelle.
Alors, Pierre raconte dans l'échange qu'il a avec toi qu'il a déjà eu une expérience auparavant d'enseignement. Alors, c'est d'ailleurs très drôle, à l'école française des attachés de presse, créé par un personnage assez exceptionnel, Denis Huysmans, dont on disait que c'était le seul prof de philo en France qui roulait en Rolls-Royce, parce qu'il avait de tels droits d'auteur sur son manuel de philo qui était l'obligatoire des classes de philo de France entière. D'ailleurs, un passage qui est très bon, c'est vous dites, Pierre, que vous... Escarpite n'aimait pas du tout les FAP, ça l'insupportait. Et vous dites, vous avez réussi à arranger un entretien entre Huysmans et Escarpite, et vous dites, c'était deux grands fauves qui se sont reniflés pendant l'entretien, mais ça s'est finalement très bien passé. Preuve qu'il y avait certainement de l'intelligence des deux côtés, mais on imagine effectivement la distance entre Huysmans d'un côté et Escarpite. Enfin là, c'était, je pense, assez exceptionnel. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Edith à propos des stages, parce que très vite, on va arriver à la reconnaissance par la profession de cette école. Hein. Et là, Pierre, vous montrez combien les perceptions ont été assez mitigées et différentes hein, selon les cas, compris d'ailleurs dans un même organe, dans un même journal. Alors d'abord, vous dites qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de lieux d'accueil. Hein, et puis, vous vous rendez compte que Sud-Ouest est assez froid à votre égard, en particulier Henri Amouroux, hein, qui est le taulier, comme on dit, hein, de Sud-Ouest à l'époque. C'est un peu, non pas le gérant, mais le régent, hein, entre Jacques Lemoine décédé et Jean-François, qui n'a pas encore pris, j'ai hier, son envol. Et puis, le RTF est quand même pas non plus avec beaucoup de possibilités de recrutement. C'est pas facile, au départ, j'imagine, de trouver des stages pour 2 fois 40 élèves, ou comme vous dites, avec les 2 années. Comment ça se passe, ça?
Alors, j'arrive avec une expérience, vous avez évoqué Denis Huysmans, qui est celle que j'ai eue dans son école, où j'étais encore plus jeune à l'époque, hein, j'avais 22-23 ans. Denis Huysmans me dit, tu vois, Pierre, la personne la mieux payée de l'école, c'est cette dame. Je dis, moi, j'ai jamais affaire à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche des stages, c'est vital. Ah, ouais. Pour des écoles comme nous, il faut que nos étudiants soient perpétuellement au contact de la profession. J'arrive à Bordeaux, l'époque n'était pas du tout encore aux stages qui se sont multipliés depuis, et en fac de lettres, n'en parlons même pas, il n'y avait pas de stage du tout. Et c'était même un peu une vision pestiférée de la manière dont les étudiants pouvaient se former. Et donc, dès le départ, une de mes obsessions, c'est que nos étudiants partent en stage plutôt que de continuer à faire, même si on faisait ce qu'on pouvait pour que ça soit très vivant et que ça soit du journalisme en chambre. Il fallait qu'ils aillent ailleurs. Là, je me heurte à 2 types de réactions, bien typiques aussi de l'époque. Un type de patron me disant, les gars qui passent par des écoles, ils attrapent tous la grosse tête et ils sont insupportables pour les rédactions. Bon, ou bien... c'est des prétentieux, mais ils savent rien et on peut pas les utiliser parce qu'au fond ils méprisent le sport, ils méprisent les faits divers, etc., etc. Donc le double reproche qu'on a trimballé pendant des années et des années, ils sont trop intellectuels ou ils sont trop bêtes. Et moi disant, bah, ils sont ni l'un ni l'autre. Prenez-en un, puis vous allez bien voir. Il est tout à fait normal, je peux vous l'assurer. Et il est même très dégourdi. Et bien sûr, nos étudiants. C'est eux qui ont constitué le vrai capital de l'école, ont été peu à peu essaimés dans toutes les rédactions de France Navarre. Ça s'est pas fait en un jour, hein. Mais où, au jour d'aujourd'hui, on a des étudiants, je crois, à peu près dans toutes les rédactions, pas seulement de presse écrite, mais de radio, beaucoup, de télé, avec effectivement, je m'en flatte, certaines pressions, notamment dans le recrutement des femmes. Parce que la radio et la télé, à l'époque, manquent terriblement de voix féminines. La presse quotidienne, elle est macho, point barre. Bon, c'est pas compliqué. Ils ont tout un travail à faire sur eux-mêmes. Mais la presse audiovisuelle, c'est autre chose. C'est que on sait pas faire avec les femmes, on sait pas comment les utiliser. Donc je vois assez bien où on va pouvoir placer des gens. Et je me rapproche aussi de quelque chose qui n'a pas très bonne presse dans les écoles de journalisme existantes, il n'y en a toujours que 3 ou 2, c'est pas vraiment compte, qui est la presse magazine. La presse magazine, ouais, oh, enfin, c'est un peu de la rigolade, sauf le Nouvel Obs à l'époque. Voilà, bon, c'est le grand Manitou de la presse magazine. Et moi, je dis, bah, peut-être qu'on n'aime pas la presse magazine. Moi-même, je ne suis pas un fan, mais je suis désolé, c'est là qu'il y a des emplois et c'est là aussi qu'il y a des nouvelles formes. Journalisme, par exemple, le storytelling, c'est pas la presse quotidienne qui a inventé ça, c'est la presse magazine, de transformer des sujets ardus en histoires par lesquelles on va essayer de communiquer des choses aux gens. Alors voilà, c'est cet ensemble de phénomènes, plus une dernière chose sur laquelle j'insiste. J'étais quand même toujours très parisien, j'ai jamais habité à Bordeaux, mais je faisais des allers-retours toutes les semaines. Et je tenais beaucoup à ce que le personnel de l'école, le personnel enseignant, ne soit pas exclusivement bordelais. Je voulais d'emblée que ça soit une école nationale. D'ailleurs, je disais souvent aux étudiants, on est très bien à Bordeaux, les hasards de la vie auraient pu faire qu'on soit à Lyon, ben, ça serait très bien aussi. Mais c'est pas parce qu'on est à Bordeaux qu'on ne travaille que dans l'idée de placer des gens à Sud-Ouest ou à l'ORTF de Bordeaux. Donc, je voulais qu'il y ait des représentants de la presse parisienne qui soient mêlés aux représentants de la presse bordelaise qu'on utilisait. Et enfin, excusez-moi, c'est un petit peu technique, c'est très important. Il y avait quelque chose qui fonctionnait absolument pas dans l'enseignement français, qui fonctionne d'ailleurs toujours pas bien du tout, qui est cette manie de diviser l'enseignement en tranches de saucisson. Une heure d'anglais, une heure de géographie, une heure de... qu'importe, et toutes les heures ou toutes les deux heures, mieux, on change de salle, etc. C'est un truc, pour le journalisme en tout cas, totalement antipédagogique. Quand vous préparez une page de journal, quand vous faites une émission de radio, bah, c'est fini quand c'est fini. Mais on ne peut pas dire qu'on va faire ça en une heure ou qu'on va faire ça en deux heures. Donc, il fallait casser le moule de ce type d'enseignement où finalement, un peu partout, c'était les profs de gymnastique qui arrivaient à faire les emplois du temps. Parce qu'il fallait que ça soit à tel moment et tel endroit. Ou les profs de langue, parce qu'on ne pouvait pas mélanger des niveaux de langue. Et ça entraînait une espèce d'hétérogénéité du diable dans les emplois du temps et entre les étudiants. Donc, il fallait aussi que je puisse faire venir des enseignants, soit de Bordeaux, soit de Paris, non pas... Alors, en plus, tout ça, c'était très mal payé, encore plus mal qu'aujourd'hui.
Il y a un échange avec Yves Agnès qui est extraordinaire.
Ah oui, qui était journaliste universitaire au Monde.
Oui, oui, c'est ça.
Il arrive chez moi.
Rubrique éducation.
Voilà. Il posait sa candidature. Oui. Il avait l'aval d'Escarpit. Tout ça. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup comme journaliste. Puis après, comme ami. Bon, on discute gentiment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quel jour il pourrait venir? Etc. Il était encore à Paris. Il envisageait de venir s'installer dans le Sud-Ouest, notamment pour élever des chèvres. Ce qui était très bien.
Avec son copain Coteau.
Absolument. Il lui-même était passé par, à l'époque, Harakiri Hebdo, etc. etc. Et tout va bien. Puis on arrive et finit par me dire « Et alors, c'est payé combien ?» Et là, je lui annonce le prix de l'heure de cours, de l'heure de TD, comme on dit, travaux dirigés, et de l'heure de TP, travaux pratiques. Il devient tout rouge, vraiment. Puis en colère, il me dit « Non, vous fichez de moi, Pierre, c'est pas possible. » Mais comment vous connaissez pas les tarifs? C'est les tarifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucun moyen de contourner ça. Alors, il y en a quand même,
oui.
Mais il était alors, scandalisé, notamment par la médiocrité, un signe du truc. Alors, après, bah, dans les moyens, par exemple, comme les TD sont mieux payés que les TP. Ben vous dites, on va s'arranger pour faire des groupes de TD, où donc faut qu'il y ait au minimum 20 et quelques étudiants pour pouvoir vous payer en TD, puisqu'en TP, je reconnais que ça fonctionne absolument pas. D'autant plus que les frais de déplacement n'étaient jamais remplacés. C'est-à-dire tout ça, ça fonctionnait sur le modèle fac de lettres, où il n'y avait jamais d'invité extérieur, sauf un conférencier prestigieux avec 20 d'honneur à la mairie, mais ça c'était autre chose. Et où fallait trouver des moyens de faire venir et de payer des journalistes professionnels. Pour ça, fallait du temps et fallait des moyens et fallait se donner du mal pour recruter des gens qui soient à la fois des bons journalistes, des bons enseignants.
Les stages étaient recherchés par l'école, par le personnel de l'école. Moi, je l'ai fait pendant très très longtemps. D'abord, pour garantir une équité entre les étudiants. Le stage était un vrai outil de formation. Et il ne s'agissait pas que les plus nantis socialement utilisent des pistons pour avoir des stages dans des lieux prestigieux, pendant que ceux qui n'avaient pas de relations ne pouvaient frapper à toutes les portes et n'étaient jamais pris. Donc, c'était les enseignants, et c'est c'était un enseignant en général, et encore une fois, je l'ai fait longtemps, donc je peux en témoigner, qui recherchait les stages pour les étudiants et qui les affectait. Donc, on demandait aux étudiants, bien sûr, où ils voulaient aller. Et puis, ils pouvaient nous arriver de leur dire, bah, écoute, oui, donc je comprends que tu vas y aller là, tu veux faire de la radio, tu as envie de faire un stage à l'Inter, on comprend, mais tu vas pas y aller là pendant les vacances de Noël parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore assez bon, tu vas te griller, on va plutôt envoyer un tel. Donc, il fallait choisir aussi entre les étudiants. Et toi, on t'enverra peut-être un peu plus tard, on verra en février si tu es prêt ou à Pâques, etc. etc. Donc ça, c'était, ça n'a jamais véritablement été contesté par les étudiants qui ont accepté. Et ça a été aussi, je crois, un gage de sérieux pour les entreprises. C'est-à-dire, on a essayé d'envoyer dans les entreprises des étudiants opérationnels au moment qui avaient vraiment envie d'être là, donc qui étaient vraiment impliqués, qui faisaient un stage sérieusement. À l'époque, ce n'était pas très répandu, les stages en entreprise à l'université, premièrement. Deuxièmement, il y avait aussi des stages d'été, des stages de remplacement qui, eux, étaient payés, étaient et plutôt bien payés, enfin, à l'équivalent du SMIC à l'époque. Donc, où les étudiants remplaçaient un journaliste professionnel pendant l'été et étaient considérés comme un professionnel. Et je pense que il n'y avait pas, à l'époque, on parlait pas d'alternance, mais au fond, la formation était assez alternante, finalement, et alternante dans une diversité d'expériences professionnelles et de construction d'un parcours professionnel et d'un CV pour l'étudiant qui lui était utile à la sortie. Et on était attentif aussi, quand ils revenaient de stage, à entendre ce qu'ils avaient à en dire, à relire leur production pour ce qui était des stages d'été. Moi, je me souviens que les étudiants revenaient en me disant « faut relire tout ce que j'ai écrit parce que j'ai pas eu de retour critique dans la rédaction dans laquelle j'étais. » Et de relire des papiers de PQR en septembre, en octobre, à tour de bras, pour leur dire « là, tu vois, ça va, là, vraiment, non, ça va pas ton papier, on comprend rien, il est mal construit. » Donc, on retravaillait avec les étudiants sur leur production au sein des entreprises. Donc, il y avait une vraie... Je pense que ça a donné des garanties de sérieux aux entreprises et aussi aux étudiants. Et par ailleurs, on a été attentif à une vraie égalité d'accès dans les entreprises entre les étudiants. Ce n'est pas un mystère que le journalisme était à l'époque une profession dans laquelle on recrutait par relation et par piston. On a essayé de faire que, en tout cas au sein de l'école, cette dimension-là soit gommée et qu'ils partent tous à égalité dans leur accès à la profession.
C'est un point qui est tellement important que c'est même la conclusion d'Arnaud Schwarz dans la postface, où il dit que finalement, que depuis 55 ans, cet ethos, si je puis dire, de l'école a pas changé. C'est-à-dire vraiment une dimension à la fois d'accessibilité, de promotion, qu'on peut qualifier aussi de... Pierre a employé le terme de méritocratie, mais aussi, j'allais dire, tout simplement de démocratique aussi. C'est pas rien. Alors, moi, je vous écouterai pendant des heures, parce que tout ça me passionne. J'ai des souvenirs personnels. Je résidais au Village 5 quand j'étais étudiant, dans la même école qu'a fréquenté Edith plus tard. Et j'avais des copains, des camarades qui étaient à l'IUT Journalisme. Et pour nous... et ben pour moi, ils étaient un peu à part. D'abord parce que sur le campus, ils étaient au bout du monde, parce qu'il fallait vraiment y aller, contre la rocade, là, après le rue 3 et le village 6, quasiment. J'ai un souvenir, je confesse aujourd'hui que j'ai fait un vol à l'IUT Journaliste, parce que le matin où j'ai entendu sur Inter la mort de Jacques Brel, je me suis précipité pour récupérer la dépêche sur le téléscripteur AFP annonçant la mort de Jacques Brel. Je l'ai gardé, je l'ai retrouvé. Donc c'est à propos du bip bip du téléscripteur du fil AFP que dont parlait Pierre. Voilà, je confesse maintenant. Il y a un point que je voudrais aborder avec vous, c'est ce que sont devenues les écoles de journalisme, qui correspond à la fois un peu à l'intention de départ, c'est-à-dire une adaptation constante aux modifications techniques de la profession. Ça, c'est quelque chose de très fascinant. Le déménagement, à Renaudel, c'est-à-dire place Sainte-Croix, dans le quartier Sainte-Croix, qu'a piloté, que vous avez lancé tous les deux, on peut dire, au moment de la transition, 12 ans quand même, entre le lancement du projet et l'inauguration. Le 21 septembre 2001, on peut dire que vous aviez vraiment pas choisi votre date, parce que c'était quand même juste 10 jours après les attentats de New York, et puis le jour même de l'explosion d'AZF à Toulouse. Donc, vous n'avez pas forcément une nez creux en termes de campagne de presse. Hein. Comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Voilà, enfin, encore une fois, c'est une école de journalisme et pas d'attaché de presse, on a bien compris. comment vous avez pu tout le temps vous maintenir à un tel niveau qui associe le savoir-faire et puis l'appropriation des nouveaux modes de journalisme?
Ben, ça, c'est la particularité de l'enseignement d'une discipline, le journalisme, dans une époque de mutation accélérée. Oui. C'est-à-dire que j'ai commencé, nous avons tous commencé, par une forme de journalisme qu'on peut qualifier de littéraire, parce que c'était ça. Et même la radio ou la télévision, c'était balbutiant. Et quand on réécoute les émissions de l'époque, la diction, le vocabulaire, c'est encore le langage écrit qui fait la pluie et le beau temps à l'époque de l'ORTF, etc. Donc, très vite, il est apparu que sans arrêt, on allait avoir l'épée dans les reins. Ouais. Il a fallu s'adapter, notamment à des modifications techniques qui ont commencé dès ma prise de fonction avec l'arrivée de l'offset. C'était pas directement lié aux journalistes, mais à tout ce qui était en amont des journalistes. La fabrication du journal a totalement changé de nature. Et bien entendu, chaque modification technique entraîne des modifications dans la fabrication de l'information elle-même. Et par exemple, ça a fait partie aussi de mes querelles avec d'autres écoles de journalisme. On peut faire des mises en page qui ressemblent plus du tout aux choses extrêmement rigides qu'il y avait jusqu'aux années 60 d'ailleurs. On peut faire des mises en page avec beaucoup plus de fantaisie. Et ça va introduire un nouveau personnage, par exemple, dans le monde du journalisme, qui n'existait pas auparavant, qui est le directeur artistique. Et que beaucoup de journalistes exècrent parce qu'ils pensent qu'ils marchent sur leur plate-bande. Et qu'il accapare une partie du savoir-faire journalistique, ce qui est d'ailleurs en partie vrai, mais c'est aussi qu'il apporte des choses nouvelles et il faut apprendre à se dépatouiller avec ça. Beaucoup plus récemment, le passage à l'informatique généralisée et aux algorithmes entraîne, c'est encore plus profond, des modifications dans la hiérarchisation même du métier de journaliste. Avant, par exemple, notamment aux États-Unis, là-bas, c'est flagrant. Les grands pontes du journalisme, c'était les chroniqueurs politiques et plus précisément les chroniqueurs de Washington. Voilà. Et les grands reporters. C'était les rois du pétrole. Mmh. On met les compteurs à clics, etc., partout, et on s'aperçoit que ce qui est lu, que ce qui est regardé, que ce qui est apprécié, c'est sur le net, les articles sur les petits chats et pas du tout sur un changement de régime à Brazzaville. Et ça change, ça mine de l'intérieur des hiérarchies qu'on pensait bien assurées, au profit de nouvelles hiérarchies qui n'ont pas forcément les mêmes crédits intellectuels. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans une école de journalisme, jusqu'où on doit aller dans les perceptions des changements du métier? Ça aussi, ça nous a occupés, d'ailleurs, ça nous occupera à tous autant qu'on est jusqu'à la fin, pendant toutes nos années d'activité.
Mais ce qui a fait que, oui, ce qui a fait qu'on est resté en prise avec la profession, dans des tensions permanentes entre jusqu'où faut-il aller dans la technicisation, dans l'opérationnalité, etc., etc. Ce qui a fait qu'on est resté en prise par rapport à d'autres établissements comme Sciences Po dont tu parlais tout à l'heure, c'est que il faut prendre conscience que plus de la moitié de l'enseignement professionnel était assuré par des professionnels en exercice. Nous, on était, j'ai passé ma vie professionnelle à coordonner des journalistes au sein de l'école et des pédagogies de journalistes professionnels qui venaient parler de leurs pratiques. Donc, on était avec eux En lien permanent hein, et de fond sur bah, qu'est-ce que tu as pensé de tel étudiant, est-ce que tu crois que est-ce que et puis qu'est-ce que tu veux faire avec eux, il faudrait leur enseigner ça, lui répondant oui mais tu sais maintenant dans les entreprises c'est plutôt de ça qu'on parle et de ça dont on a besoin. Donc on était très en prise avec la profession quand même, c'est pas parce qu'on travaillait pas nous-mêmes comme journalistes professionnels au sein des entreprises qu'on n'entendait pas les attentes. Et d'ailleurs, tous les professionnels qui venaient dans l'école, une grande majorité d'entre eux me disaient combien c'était important pour eux, parce que c'était un moment de réflexion sur leurs propres pratiques et sur leur propre fonctionnement journalistique. Alors, je crois que ça nous a beaucoup aidés. Ce qui nous a beaucoup aidés, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire l'attention à nos étudiants et notamment à ce qu'ils disaient quand ils revenaient des entreprises. Oui, mais madame, vous nous demandez, vous avez des exigences, puisque tu disais que j'avais été l'intervieweuse, j'étais aussi prof de technique d'interview à l'école. Vous avez des exigences en termes d'interview. Nous, dans les entreprises, c'est pas ça qu'on nous demande. On était donc attentifs à ce qu'ils nous disaient. Et dans cette tension permanente entre eux, jusqu'où fallait-il aller dans nos exigences d'enseignants à l'égard de l'exercice de cette profession et des techniques mises en place et de ce qu'elles produisaient en qualité d'information et là, la réalité de l'opérationnalité qui était attendue des entreprises et des cadres au sein des entreprises qui recrutaient les étudiants. Donc, il fallait trouver le juste point d'équilibre. Mais c'est ça qui nous a permis de nous adapter en permanence et de nous ajuster. C'est ça aussi qui m'a conduit à transformer l'IUT en Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, préparant un master, sans trahir, j'espère, je le crois et j'en suis même certaine, les fondamentaux de l'école, hein, c'est-à-dire des promotions très diversifiées. Je disais toujours aux étudiants, vous allez apprendre beaucoup de vos excellents professeurs, mais vous allez surtout beaucoup apprendre les uns des autres, parce que vous êtes très différents et qu'on était très attentifs à cette diversité au sein des promotions. Donc, je crois que c'est ça qui nous a aidés à nous adapter. Même si la formation n'était, comme toutes les formations, pas parfaite, et qu'elle était meilleure sur certains secteurs que sur d'autres, mais dans l'ensemble, par rapport à d'autres structures universitaires, c'est notre lien très étroit avec la profession qui nous a permis de nous ajuster en permanence.
Alors ça veut dire que ce sera ma dernière remarque, la critique qui est adressée aux écoles, qui a été, en tous les cas, peut-être moins maintenant, mais celle du formatage, hein, d'une sorte de production de clones, hein, qu'un auteur de SF, finalement, ne désavouerait pas, dans une espèce de Brésil, si je puis dire, de journaliste. Vous la récusez, j'imagine, parce que ce que tu viens de dire, Edith, à savoir la diversité des professions, la diversité des métiers aussi, la diversité des formats dont parlait Pierre, tout cela fait que c'est un peu un raccourci paresseux de parler de format unique, hein, ou unidimensionnel.
Oui, c'est quelque chose que j'accepte assez mal, effectivement, comme critique à l'égard des écoles. Ce n'est pas les écoles qui formatent, c'est la presse elle-même, par ses attentes, par ses modifications techniques. Alors, en réalité, on est passé d'un système qui était le système du népotisme, d'abord, au niveau du recrutement. C'était ça, la marque du journalisme. C'était bourré de cousins de tout le monde. Et surtout dans la presse de province, mais à Paris, c'était la grande bourgeoisie qui se recyclait dans les médias. Donc les écoles étaient souvent détestées parce que, au fond, c'était un peu l'arrivée du loup dans la bergerie, où tout se passait dans un entre-soi, où il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, les patrons de presse les plus astucieux, je sais qu'il y en a qui sont très astucieux, sentaient bien que cette unicité sociale du recrutement était très dangereuse, même pour la survie de la presse.
Une sorte de consanguinité, une consanguinité qui faisait un peu des idiots aussi, quand même. Hein.
Tout le monde pensait la même chose, quoi. Les modes, tout le monde les acceptait. Il a fallu l'arrivée de ce qu'on n'appelait pas encore la diversité pour que des sujets nouveaux émergent, tout simplement parce que c'était des petits gars ou des filles qui venaient d'un tout autre milieu et qui disaient « vous parlez jamais, je ne sais pas quoi, des agriculteurs » ou « vous parlez jamais des blacks en France » ou « vous parlez… Est-ce que c'était vrai ? Il n'y avait même pas idée de parler de ça. Donc on est passé de ce système à la fois népotique, fermé et autosatisfait à une période beaucoup plus ambiguë que j'évoquais tout à l'heure, du genre les écoles, ça fabrique soit des grosses têtes, c'est pas ça qu'on veut, soit des espèces d'idiots diplômés, c'est pas ça qu'on veut. Ça, ça nous a quand même occupé aussi pendant 10, 15, 20 ans. On est arrivé, je pense, au jour d'aujourd'hui, à quelque chose d'à la fois plus apaisé, c'est-à-dire c'est très simple les chiffres. Hein. Moi, du temps où j'étais aux manettes, il y avait, si mes souvenirs sont bons, 7 ou 8 000 cartes de presse. Ouais. On en a 30 000, 30, plus de 30 000. Bon, la profession a plus que triplé. Donc, il y a une variété dans les pratiques journalistiques et d'ailleurs dans le statut des journalistes, dans le prestige, etc., etc., qui est incommensurablement plus grande qu'elle n'était il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, c'est quand même un métier qui a connu une révolution. Avec un petit mystère, hein, qui est que la profession de journaliste est l'une des professions les plus détestées des Français. Toutes les enquêtes d'opinion
le prouvent. Avec les huissiers de justice et des femmes et des hommes politiques.
Voilà, et banquiers, voilà. Bon, alors, très bien, parfait. Sauf que, ça c'est les parents qui répondent ça, mais les enfants, eux, une des professions les plus désirées de la jeunesse, c'est journaliste, ce qui est quand même un écartèlement tout à fait étonnant.
Non, c'est logique, c'est logique, c'est pour emmerder les parents aussi.
C'est une des explications qu'on doit pouvoir trouver, oui, voilà. Mais là, je laisserai aux familles le soin de résoudre.
Mais le procès en formatage des écoles, il est lié à ça, à la détestation de la profession. Moi, je sais que dans les années 90, à partir des années 90 ou 2000, quand dans les dîners en ville à Bordeaux, le soir, quand on me demandait ce que je faisais comme métier, je disais « Oh, je suis prof à la fac ». Je ne répondais plus que je dirigeais un IUT de journalisme. Sinon, on passait le dîner sur « Mais qu'est-ce que vous faites dans les écoles, les médias, tatata, etc. etc. » avec cette manif bien française accuser les écoles de tous les maux, de tous les maux de la société, et de penser que c'est l'école qui va résoudre tous les maux de la société, hein, alors qu'elle est un produit de la société, l'école aussi. Donc, voilà, c'est ce procès en formatage qui a été en plus animé par des gens pas toujours très honnêtes dans leur démarche et dans leur manière de raconter ce qui se passait au sein des écoles, en tout cas de généraliser des observations, il est lié à ça, il est lié à cette détestation franco-française des médias, des journalistes, qui vient d'ailleurs souvent de gens qui, au fond, ne lisent pas la presse ou ne regardent pas tellement la télé, mais qui en parlent beaucoup.
Alors, on va terminer là-dessus. J'allais dire, vous avez fait un bien beau métier, madame, monsieur, vous pouvez être fiers de vous. Mais, en tous les cas, merci beaucoup pour ce témoignage très vivant. C'est... j'allais dire, déployé, développé et remarquablement bien mis en forme par Edith Raymond et par Pierre Christin. Et c'est donc l'école de Bordeaux, hein, qui est donc une autre école par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, des écoles artisanales et de peinture et artistiques remarquables. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Hein.
Merci à toi.